Et voilà, on est sur Canal Sud 92.2, le premier vendredi du mois. Et là, c'est le premier vendredi du mois de décembre 2013. Et nous recevons Bernard Maillaudon, qui s'est installé sans décor dans la salle de Canal Sud. On a des retours un peu forts, donc c'est pas grave. Et donc, on va discuter. D'abord, peut-être rappeler pour des auditeurs, des auditrices ou des habitués du vernissage, Bernard Maillaudon a déjà exposé à Canal Sud il y a fort longtemps.
Trois fois.
Voilà. Donc, oui. Ça t'a pas trop perturbé puisque tu reviens?
Oui, je reviens sur les lieux du forfait. Voilà, et donc.
Avec de la peinture.
Pour la quatrième fois, avec de la peinture, toujours de la peinture, oui.
Des formats différents, là.
Exactement.
Nous avons des grands formats carrés.
Mm-hmm. Oui, là, c'est. Je crois que la deuxième exposition que j'avais fait ici, il y avait 8 tableaux de format 120-120, donc carré. Qui était très différente de ceux d'aujourd'hui, mm-hmm. je pense. Mm-hmm. Voilà, parce qu'effectivement, on fait des choix à des moments donnés sur le travail qu'on met en œuvre. Mm-hmm. Et là, j'ai fait un choix assez radical.
Donc là, on peut dire que d'un côté des murs, on a une série, appelons série, en fait. Donc, et de l'autre côté, encore un petit rappel de ce qu'on avait sur l'autre mur, mais surtout deux tableaux plus anciens, un de 99 et un de 2002,
mmh,
qui montrent une approche tout à fait différente du travail de peinture quand même, non ?
Mmh. Pas tellement différente
en fait,
pas tellement différente puisque les principes sont à peu près les mêmes, peinture des corps, de corps de femmes, sur tous les tableaux qui sont là. C'est assez évident. Et puis après, un travail qui est aussi sur la question de la couche, de la transparence, d'un certain nombre de choses comme ça. C'est-à-dire que c'est mes recherches. Hein,
moi, je suis en recherche. Plus, hein. Je voulais dire, c'est que, par exemple, le tableau de 2002, on voit qu'il y a un travail, comme tu dis, de couche,
oui,
d'effaçage, de revenir, etc.
Oui.
Sur cela, vu la netteté, puisqu'on est dans du figuratif, on a moins conscience. Alors, on a les musiciens, mais vous passerez en fin d'interview, hein, puisqu'on peut rappeler aussi qu'actuellement, c'est le super vernissage, que tout le monde, quand même, remercie Bernard Maillaudon d'un accueil extraordinaire. Il vient servir les toasts aux gens dans la salle, et qu'en plus, il y a du rock. Alors, donc, on en parlera en fin d'interview. Et là, on reprend donc sur ce... Moi, je trouvais, en effet, qu'il y avait une différence, en tout cas, en tant qu'observatrice. Voilà, on sent pas ce travail de couches successives,
ouais,
ou d'effaçage. Peut-être le fond, comme tu dis, mais...
Mais le fait de pas le sentir, ça va avec cette espèce d'évolution que je travaille. Alors là, bon, volontairement, c'est très figuratif. Mm-hmm. Ça ne peut pas être plus figuratif, mais en même temps...
Et même sur l'idée
en même temps, ça n'est pas complètement, parce que les couleurs sont pas des... Enfin, je veux dire, c'est des femmes de cette couleur, j'en connais pas. Enfin, pas vraiment. Ou alors, elles ont la jaunisse ou je sais pas quoi. Mais enfin, bon, voilà. Et donc, il y a quand même un travail de couche. Je le répète, je le souligne.
Oui.
Sur cette exposition. D'ailleurs, moi, j'ai une amie qui s'appelle Brigitte Masson, qui est juste derrière moi là, qui est venue de Mont-Saint-Pronibos, et la question du travail de couche sur les... Oui, oui. elle rigole quand je la cite. Oui, elle a déjà exposé ici aussi et tout, et c'est là qu'on s'était rencontrés. Et je suis allé exposer à Mont-Saint-Pronibos une fois d'ailleurs. Et donc, elle a un travail qui est comme ça aussi, mais qui est très différent puisque c'est un travail avec à partir de papier et de collage.
Est-ce qu'on pourrait dire,
c'est de la peinture.
Est-ce qu'on pourrait dire, alors je ne sais pas si on a aussi...
Katerina qui est là.
Jo Katerina qui est là, et qui aussi, est-ce que ça serait une constance un peu des peintres de cette histoire de travail successif de couches? Parce qu'il me semble aussi que ton travail, tu n'arrives pas directement à la couleur que tu obtiens. Alors est-ce que c'est... Ce travail-là d'effacer, c'est jamais un travail aussi instinctif, la peinture? Ça dépend.
Instinctif,
non, dans la méthode,
non,
hein,
non,
je
ni instinctif, ni hasardeux. Bon, ensuite, pour revenir précisément à ce point particulier, moi, ça fait 20 000 ans que je n'étais pas passé ici, donc...
Je te remercie d'être venu, en tout cas.
Je reviens pour découvrir Bernard dans une nouvelle peinture qui est étonnante, mais je n'ai pas encore eu le temps de m'y attarder. J'ai tout de même remarqué qu'il y avait effectivement des femmes, et donc on est dans un travail figuratif. Moi, la question que j'ai envie de lui poser, parce que je ne me suis pas encore attardé dessus, je ne suis pas allé voir effectivement ce problème de couche et de repenti, etc. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui fait qu'un artiste peut-être amené à passer d'une peinture abstraite à une peinture figurative.
Est-ce que tu t'es posé la question pour toi?
Donc, là, c'est moi qui te pose la
question. Parce que toi, et c'est toi, c'est Bernard
et c'est toi qui es sur la sellette.
Voilà. Oui, mais moi, j'ai un souvenir très, très précis de ce que, du travail que j'ai vu de Jo la dernière fois que je suis passé chez toi. Qui était donc premièrement, il y avait quand même beaucoup de travail entre guillemets abstrait, parce que moi je fais pas tellement la séparation entre les deux, j'ai du mal à faire la séparation entre les deux.
Explique-nous.
C'est ça le problème, c'est-à-dire que les gens ils font abstrait, figuratif, etc. Bon, on met des catégories, évidemment il y a des choses qui sont plus, on va dire, concrètes au niveau de l'œil, c'est-à-dire des choses qu'on apprécie de manière à les sentir plus proches de nous, donc plus proches de notre réalité, on va dire. Et ça, c'est ce qu'on appelle, d'une manière générale, la peinture figurative. Parce qu'elle elle serait censée être proche de notre réalité, elle serait censée représenter des choses de notre monde.
Qu'on arrive à identifier.
Qu'on arrive à identifier, mais en même temps, dans une représentation du monde. Moi, là, dans ces tableaux, il n'y a aucune représentation du monde. Donc on ne peut pas dire que, de ce point de vue-là, il n'y a aucune représentation du monde, il y a uniquement des corps, et il n'y a pas de décor, ce que tu as souligné, Chantal, tout à l'heure. C'est-à-dire que volontairement, je ne vais pas faire de citations sur les citations par rapport à des peintres, et par rapport au travail que j'ai fait, et par rapport à certaines citations qui sont dans ces peintures, elles y sont. Et je n'ai pas du tout envie de les donner comme ça. Je pense que les gens, il faut qu'ils aillent s'y coltiner un petit peu aussi quelque part. J'ai jamais été pour dire c'est comme ça, parce qu'en même temps ça casse le regard de l'autre. Pour moi, la peinture, elle est dans le regard de celui qui regarde. Et donc pas de fond entre guillemets, mais il y a trois couches. Il y en a une qu'on voit pas et il y en a deux qu'on voit à peu près.
Là, on le sent un peu, cet espace.
Ça vibre un peu, c'est un peu bizarre ce fond, parce qu'il y a trois couches de peinture, mais il y en a une que vous ne voyez pas. Mais si je vous dis, pour ça qu'il y en a trois. Mais la question du figuratif, pour moi, est un faux problème. C'est-à-dire,
On revient souvent à la technique, encore une fois, comme les questions précédentes, mais on a un petit peu détourné la question. Moi, j'aimerais savoir, ça m'intéresse vraiment. Qu'est-ce qui peut amener un artiste, toi en l'occurrence, mais tu pourrais répondre pour d'autres, peut-être. Éventuellement, si tu me posais la question à un autre moment, je te répondrai peut-être aussi, à ma façon. Et moi, j'ai envie de savoir ce que toi, tu ressens et à quel moment il se passe quelque chose qui fait que, après de longues années comme peintre abstrait, tu verses soudain dans le figuratif.
Mais
je
ne me suis jamais considéré comme un peintre abstrait. C'est ça, là. C'est toute la question, elle est là. Elle est dans la question de la peinture. Qu'est-ce que c'est la peinture? C'est une matière. La peinture, ça n'est pas la réalité, c'est une matière avec laquelle on travaille, avec laquelle on fait quelque chose, avec laquelle on a un espace qui s'appelle en général une toile, si on veut, ça peut être sur du bois, ça peut être... Peu importe, on a un espace de travail, on a un travail qui se fait avec une matière. Cette matière, elle n'est jamais neutre, c'est-à-dire elle donne quelque chose aussi. C'est-à-dire que quand on peint, il y a... Moi, je pense à l'expo de Robérol que je suis allé voir. Je suis allé à l'espace Robérol il y a quelque temps là, pendant au mois d'août, je crois. Et je regarde Robérol. Moi, pour moi, c'est ça. Robérol, c'est à la fois vraiment, c'est hyper. Et puis, c'est aussi quelque chose où il y a forcément, à un moment donné, des choses qui adviennent que t'as pas forcément vues comme ça, qui vont advenir et dont tu vas te servir pour faire ton travail. Donc, si tu veux, pour moi, la peinture, c'est ça. Et ça n'est pas, et je ne rentrerai pas dans l'histoire figuratif ou non figuratif. Là, pour moi, ces tableaux ne sont pas des tableaux figuratifs, puisqu'ils sont des tableaux en dehors complètement de... Il n'y a que les corps, mais les corps, ils sont comme dans une espèce de suspension. Ils ont des postures, mais il y a une suspension. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas un endroit où ils sont assis, il n'y a rien. Même quelqu'un comme Bacon qui était dans quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire il avait ses corps qui étaient, mais ils étaient souvent posés quelque part et presque pas de décor, très peu de décor sur certaines séries des traits, quelque chose de très, mais voilà. Donc je veux dire, moi je veux pas entendre parler pour ces tableaux-là de figuratif. Je pense que c'est ça. En plus, je suis par quelqu'un qui dessine vraiment très bien. Donc, je veux dire, c'est quasiment tout est faux dedans. Tout est faux.
Ça, c'est, je trouve intéressant.
Et c'est intéressant ce soit faux. C'est ça qui m'intéresse.
Intéressant, c'est dans le sens que quand nous, on dit figuratif public, c'est qu'on arrive et on voit une série de tableaux qui représentent des femmes nues. Et puis après, en effet, on s'aperçoit qu'elles peuvent avoir un œil de travers. Il y en a une qui n'a même plus de main. On ne sait même pas si elle est palmée ou pas. Donc, quand tu dis aussi, moi, l'irréalité, c'est surtout ce trait noir tout autour. Parce qu'en effet, quand on présente un corps, à moins que ce soit une aura noire, mais on n'a pas. On a le corps. Et là, tout d'un coup, on a une espèce de. Alors, en effet, moi, à t'entendre parler, ça voudrait dire que tu nous présentes de la peinture. Et ce que je voulais noter, c'est que dans l'affiche de l'expo, pour tromper soi-disant le monde, mais quand même, c'est pour nous montrer, moi j'ai l'impression, ces différentes couches, eh bien la photo de qui est en... C'est juste un extrait, hein, un petit extrait d'un tableau. C'est et en effet là, ouais, on voit presque le travail de peinture. Donc, c'est vrai que c'est difficile,
je vais dire
faut reconnaître que c'est difficile d'aller jusqu'à ce que tu dis toi, de faire l'abstraction de ce qu'on voit de ces corps, c'est difficile. Il faut avoir tout un travail, discuter avec toi, c'est intéressant aussi, c'est comme ça qu'on l'apprend. Hein. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est de la peinture.
Oui.
Mais c'est dur, hein, parce que tu nous fais faire une espèce de gymnastique qui n'est pas évidente.
Alors, sur cette question, sur l'extrait de tableau, je trouve que dans la peinture aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça, cette petite affiche, c'est d'aller quelquefois simplement s'immiscer dans le tableau sur des détails. On voit un tableau en grand, il fait 1m20 sur 1m20, donc c'est vraiment un grand machin, oui, effectivement. Mais après, quand on se rapproche, on voit autre chose. Et il y a toujours cette question de l'œil, et donc je reviens là-dessus, c'est le spectateur qui fait son tableau de toute façon, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas moi, moi j'ai fait les miens, ça y est, je les ai faits, je sais ce que j'ai mis dedans, etc. Par contre, c'est le spectateur qui va arriver là-dessus et qui va aussi se faire son tableau. Hein, c'est comme un film, vous allez voir un film, voilà.
Les tableaux, tu les as faits, toute la série, sont récents, parce qu'il y en a deux qui sont datés, oui. Ceux-là ne sont pas datés.
Alors, il y en a sept qui sont très récents, qui ont été faits quasiment en même temps, dans les derniers mois, là. Ça prend un petit peu de temps de faire des tableaux, et surtout quand ils sont grands comme ça. Alors il y a les deux autres, il y en a un qui avait déjà été exposé ici, c'était une des premières expos que j'avais faites, mais c'était aussi une volonté,
celui de 1999, c'est ça, le corps de 2002. 2002,
qui avait été exposé. Oui, celui.
Un jockey?
Oui, quelqu'un m'a parlé de chaussures et tout ça là.
Et moi, enfin, j'ai vu un jockey, moi.
Voilà, jockey, chaussures, enfin bon, peu importe. Mais voilà, donc tu vois, bon, c'est les gens, ils voient des choses. Non, ce que je veux dire, c'est. Donc, pourquoi j'ai mis ces tableaux? En fait, ces tableaux sont là comme un rappel du travail que j'ai fait et comme une base qui permet aux gens de se raccrocher à quelque chose qui est un petit peu ancien, mais qui aussi fait partie de l'histoire. De mon histoire à moi, de mon travail à moi. Et je l'ai fait exprès. Alors, avec le fait qu'il y a un des deux tableaux, celui de 99, qui n'a jamais été exposé, et qui appartient à quelqu'un. Donc, je la remercie d'ailleurs de me l'avoir prêté, de me l'avoir ramené ici, parce qu'en plus, il n'est pas sur Toulouse. Donc, il est exposé depuis 99, quasiment. Voilà, chez quelqu'un. Et donc, à un moment donné, je discutais avec elle, je lui demandais si elle pouvait me le ramener. Et là, je voulais qu'il soit exposé parce qu'il est aussi dans cet ordre d'idées. Voilà. Voilà. Moi, j'aime bien quand on se pose des questions sur les choses et qu'on n'ait pas forcément toutes les réponses.
D'accord.
Ça me
Une coupure
plaît.
Musicale que tu
oui,
as sélectionnée
avec Back is Dead. Ça s'impose.
Mark is dead. see the Southern Cross at night. And so they set aside a sock and tie their laces tight. Yes, mournful is the melody that echoes in their heads. Without a beat they march along, believing Bach is dead.
Bach is dead.
Voilà, on reprend l'antenne. Et on reprend l'antenne directement.
Ici, on peut reprendre l'antenne avec tout ce bazar, les musiciens qui s'installent. Et surtout reprendre une question, parce que ce qu'on voudrait demander à Bernard Maillaudon, en fait, bon, simplement la question, pourquoi tu peins ? Alors, peut-être qu'on va arriver à sortir quelque chose.
Pourquoi je peins ?
Toi ?
Pourquoi je peins ? Alors, je pense que c'est pour des questions de plaisir, de jubilation. Voilà, pour découvrir des choses, pour être dans la découverte aussi. En fait, j'ai commencé totalement par hasard. Totalement par hasard. Mmh. Je suis enseignant, donc j'ai fait l'école normale. Et puis, pendant l'école normale, j'ai eu un prof d'art plastique. On a commencé à faire des choses et tout. Et puis ça a commencé à me titiller, cette histoire-là. Je me disais que c'était. J'allais déjà beaucoup. Je faisais déjà des choses, genre aller dans des expos, etc. Enfin, j'aimais la peinture. Hein. Bon, je pense que je dois avoir une petite connaissance de la peinture contemporaine, en tout cas, et même 19e, même avant, quoi.
On peut remonter. Oui, mais toi.
Et donc, j'ai commencé là. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà raconté ici. J'ai commencé là et ça s'est fait. C'est la jubilation. C'est la question de la jubilation.
Il n'y a pas quelque chose de douloureux à peindre ? Et la nécessité de peindre ?
Je sens.
Non.
Alors, c'est l'histoire des poètes maudits et tout ça. Ça m'a toujours fait rire. Parce que je pense que la poésie peut être douloureuse sans doute pour des gens, mais elle peut être jubilatoire pour d'autres. Et moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est pas de m'emmerder, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est de jubiler, de me faire plaisir et d'avoir du plaisir.
Ça ne se fait peut-être pas au même moment, non ?
Moi, je souffre pas quand je peins, heureusement, parce que sinon, je le ferais plus. Je veux dire, on va pas s'infliger des heures de souffrance, parce que c'est des heures et des heures et des heures. Moi, j'ai pas envie du tout de m'infliger des heures de souffrance. Donc, je m'inflige du travail, mais du travail consenti. Donc, c'est pas de la souffrance, le travail consenti. Contrairement au travail non consenti...
On peut souffrir et puis se libérer, se soigner en peignant, non ?
Ah, mais non, moi, c'est pas du tout ça. Je fais pas de l'art pour la thérapie.
Et pour revenir à la nécessité, il y a une idée, il y a un besoin
Oui, ça me nourrit complètement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me...
Tu pourrais faire de la musique, tu pourrais faire autre chose ?
Non, parce que d'abord, faire de la musique, peut-être, C'est quelque chose que j'ai fait. J'ai été au conservatoire de musique quand j'étais jeune et tout ça. Ça m'a gavé.
T'as tenté l'écriture aussi ?
Ça m'a gavé.
Et l'écriture ?
J'écris.
Alors ?
J'ai pas tenté l'écriture. Je continue à écrire.
Tu continues à écrire ?
Oui, je continue à écrire et je peins. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de limite. Mm-hmm. Et on a une vie qui va durer un certain nombre d'années, des années, c'est pas des siècles. Donc, j'ai envie d'être dans cette... c'est ça qui m'intéresse. Donc, aborder les choses de différentes façons, avec différents angles, écrire, peindre, etc. Tout ça, ça m'intéresse. Et ça m'intéresse d'autant plus. Alors là, je commence à avoir un petit peu de bouteille, puisque j'ai commencé à peu près en 85 à peindre. Tu diras pas le contraire. Je pense que quand on s'astreint et qu'on travaille. Douloureux ou pas, en tout cas le travail, mais qu'on travaille. Il y a des choses qu'on commence à aborder de manière différente. Moi j'avoue que... c'est peut-être... Au début, c'était peut-être plus difficile. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de faire de la peinture.
Et donc...
Pourquoi est-ce que c'est plus facile maintenant ?
C'est plus facile parce que, justement, toi, tu es toujours à l'envers des trucs.
Non, j'entends des choses.
C'est plus facile parce qu'il y a un certain nombre de choses. J'ai un ami qui fait des... Qui, à un moment donné, on lui avait fait une commande. C'est un Catalan qui s'appelle Michel Fourquet. Et donc, qui peint. Et à un moment donné, il me dit, on lui a fait une commande de taureau. Ouais. On lui a fait une commande de taureau pour une arène, etc. Et il m'a dit, oula, j'ai dessiné taureau. Mais après, à la fin, je faisais les taureaux. On me demandait un taureau, je faisais le taureau. Et je l'avais fini. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette question-là. C'est-à-dire que quand on travaille, on se facilite les choses. On apprend, on se facilite les choses. Et quand on se facilite les choses, voilà, on est un peu plus dans le... Voilà.
Il n'y a plus l'appréhension de la toile blanche, quoi.
voilà, la page blanche, la toile blanche. Tout est blanc dans ce que je fais au départ. Hein.
Je voudrais te demander de nous présenter les musiciens qui ont animé le...
Ah ben, ils vont se présenter, là, Michel. Michel, tu vous présentes.
Alors, il faut parler vraiment, s'il te plaît, face au micro, là.
Tu fais ça, tu peux?
Eh bien, je dirige un orchestre symphonique de...
À deux personnes.
De 600 000 musiciens. Il y en a un et deux.
Et alors... On est en extrait de la grande symphonie, là.
Surtout, c'est confidentiel, dites-le à personne.
Bonsoir, je suis Louis Fine. C'est un jeu de mots, mais j'ai pas trouvé pire comme jeu de mots, en fait. J'ai longtemps cherché, mais
pour
finalement...
Pour un musicien, oui, d'accord. Ouais.
Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas ce que... D'accord. Okay. Parce que j'ai des problèmes d'audition, en fait.
Et alors, pourquoi tu as choisi cette paire
Alors, c'est marrant de choisir une paire quand on fait une exposition.
Du balance et roule.
Avec des corps de femme,
oui. Oui, on fait la farce. C'est comme ça. Hein, c'est ce qu'on dit, non?
Il fait du balance et roule parce qu'il faut tout franciser.
Ouais,
et ouais. Donc, rock'n'roll, ça
n'existe
pas.
Ouais, c'est balance et roule,
je mène une.
J'adore le balance et roule.
Je mène une lutte contre. Contre le conformisme et les snobismes qui se retournent partout. De plus en plus de groupes de rock français chantent uniquement en anglais. Alors moi je veux bien, mais ils ont qu'à nous dire sur les radios que de toute façon il faut d'ores et déjà lire Baudelaire et Rimbaud en français, c'est ringard. Ah ouais, c'est ce niveau-là, quoi. Il n'y a pas une chanson sur France Culture et compagnie, t'as pas, sur 10 chansons, t'as 10 trucs en anglais, quoi.
Alors, ce qu'il faudrait dire, quand tu parles de la langue, c'est parce que c'est peut-être du rock, mais c'est du texte. Il y a beaucoup de texte.
Ah ouais.
Alors, oui, c'est pas du slam, t'es pas passé au slam, mais
c'est pour ça
y a
qu'ils
du texte,
sont là, oui, d'ailleurs.
C'est pour ça, parce que tu apprécies le texte.
Voilà.
Mm-hmm. C'est long, il y a du texte.
Oui, oui, oui.
C'est toi qui
Dylan aussi, avec le texte, encore les textes interminables.
Ouais. Ah, oui.
Marie Chantal. Ouais. Heureusement qu'il y a maintenant plus d'une phrase, parce que généralement dans les chansons françaises, maintenant, vous avez un refrain et puis trois lignes de texte.
Moi, je tartine.
Voilà, ouais. Mais il faut.
Et la musique, alors la composition, toi, tu interviens à la guitare?
Ah, moi, je n'interviens pas du tout. Moi, je suis fan de Michel depuis très, très longtemps et j'ai demandé à participer, sinon je le menaçais d'incendier son appartement s'il n'acceptait pas dans son duo. Donc j'ai fait des menaces et puis il a fini par céder, tout simplement. Ouais.
C'est lui qui commande.
Ouais, il a fait des menaces et il a été tenace.
C'est ça.
Enfin bon, moi je mène
de
une.
De quoi parles-tu dans tes textes?
Bah, je te dis, tout ce qui remet en cause les conformistes de tout poil. J'aime bien une phrase de Marguerite de Crayancourt, c'est Marguerite Yourcenar, qui disait « La bêtise et le conformisme sont une seule et même chose. » Voilà, mes ennemis.
Et en fait, c'est pas un spectacle, t'es assis, là aussi toi tu joues.
Ouais, je les emmerde. Pardon, j'ai pas dit.
Si, c'est un spectacle quand même. Hein.
C'est un spectacle.
Je veux dire, quand on voit les vidéos.
Ciel,
c'est un
quelqu'un
spectacle.
Intervient, Dieu peut-être.
Quelqu'un de loin qui arrive.
Oui, c'est vrai, sur,
j'entends sa voix.
Ouais, sur YouTube, on peut chercher Michel Chauvet, Chauvet. Et vous trouverez des vidéos en concert à
Arnaud Bernard,
ouais. C'est très sympathique. Ouais. Ouais.
Mais... Non, on va faire de la pub alors. On est là pour ça aussi quelque part. Non, parce qu'il y a les 24 heures de poésie d'Arnaud Bernard. Enfin,
dans le micro, ouais.
Hein, c'est ça. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais bon, enfin, en tout cas, il y a
la chat pendant 24 heures.
Ouais, ça dure un certain temps. Ouais. Je sais pas si ça n'a pas été ramené à 12 heures, mais bon, peu importe. Et donc, ça, c'est tous les ans, vers le mois de juin.
Le premier juin.
Le premier week-end de juin, Arnaud Bernard. Comme ça, on se met bien avec celui qui organise.
Bon, je voulais dire un petit truc. Déjà, finalement, bon, effectivement, je suis là, je ne vais pas vous dire des méchancetés. Mais enfin, les artistes, en général, c'est un peu des casse-noisettes. Mais les rockers, c'est encore pire.
Voilà, c'est pour ça
je préfère encore être parmi vous. Ah ouais, les rockers, les mecs, ils veulent tous déjà, ils voient le carnet de chèques déjà avant d'avoir commencé. Hein.
Je passe aussi une annonce, moi je recherche une jeune femme asiatique entre 25 et 35 ans, je suis célibataire. Donc sur Facebook, vous cherchez Laurent Cobel, CIBL, Louis Fine, et puis vous m'envoyez un message, ça me ferait très plaisir. Bon, on peut essayer, c'est la Radio Libre.
Voilà,
allons-y.
Radio Libre, de dire n'importe quoi. De dire n'importe quoi. Et donc, Bernard.
On va conclure alors.
Non, oui, on va conclure en précisant quand même que le vernissage n'est donc pas du tout terminé.
Non, non,
puisque
non, non, vous pouvez venir encore.
Le duo.
Il y a encore des choses à manger bientôt.
Et de conformisme.
Oui,
parce
oui,
que
ils vont continuer. Ouais.
L'annonce que tu as
faite. Très conformiste. Absolument.
Voilà, ouais. Donc vous allez encore jouer un petit peu quand même.
Oui.
Si j'ai un vernissage qui ne va pas être tellement sage.
Voilà. Je pense que on va les autoriser à jouer un peu. Oui.
D'accord. Et Bernard, donc tes toiles sont visibles dans la radio Canal Sud pendant tout le mois de décembre.
Oui. Voilà. En général, la radio est ouverte l'après-midi, si je ne m'abuse.
Mais sinon, là, c'est quand même une grande baie vitrée. Oui. Donc à partir de 10-11 heures, on peut déjà voir les tableaux de la rue.
Tout à fait, oui.
Voilà. Et sinon, non, à partir de 10h30. Il y a plein d'émissions et comme c'est ouvert, donc vous pouvez aussi voir les tableaux.
Voilà, jusqu'à la fin du mois.
Non, Michel.
Non.
C'est fini ? Non, mais c'est à propos des vernissages.
Des
conformismes. C'est que maintenant, il y a plein de conformismes, il y a plein de conformismes différents suivant les origines des gens, tout ça. Autrement dit, on a le droit d'être con avec une façon absolument extraordinaire. Alors, c'est merveilleux.
Le droit, on l'a, après, on peut peut-être faire autre chose.
Ben oui, mais c'est vicieux.
On va essayer de faire autre chose, en tout cas.
Et bon, on est là pour ça.
La chanson Jeannot, elle est sur quel thème ?
Jeannot le pourri, excellente. Jeannot Rotin.
On va la passer, donc
la passer.
Expliquer aux auditeurs. Voilà.
Jeannot le pourri, c'est Johnny Rotten, le chanteur des Sex Pistols. Mes trucs sont tout le temps. En fait, ça renvoie toujours à plein de machins qui ont existé, quoi. Et c'est Jeannot le pourri.
Il existe encore, hein ?
Oui, il existe.
Il est encore en vie, ouais, continue avec Peel, le groupe Peel.
Dernier album.
Ouais, il est très bien.
Il paraît qu'il est toujours de gauche. Il est toujours de gauche, vraiment.
Mais il a reçu par contre une distinction, je crois qu'il a été décoré récemment. Il a accepté quand même la décoration.
Ah, ça,
pour
c'est
un peu que ça fout mal quand même.
Oui, c'est un peu louche.
C'est bien, on commence
non,
par...
Non, mais il se l'est agrafé dans la peau.
On commence...
Et laissez parler Michel quand même.
Michel. Voilà.
Bonjour.
Mais qu'est-ce que tu dis dans ton texte alors, c'est ça, tu dis
sur lui, c'est un peu plaisantin, quoi. Je dis Jeannot le pourri, enfin je raconte tout un tas de trucs. Mais en fait, c'est pour amener le truc... Ah bah les artistes professionnels vivent les musiciens des ruelles. Et mieux vaut un clodo qui chante presque faux que tous ces superstars pleines d'euros. Voilà. Yeah.
Bravo. Et donc on a commencé par la peinture, on finit par la musique et du texte.
Voilà.
Et ben voilà, c'était l'interview du premier vendredi du mois sur Canal Sud 92.2. C'est au 40 rue Alfred Duméril, vous avez encore le temps de venir. Bonsoir.
Ouais.
Merci.
Vous retrouverez tout ça sur Canal Sud, le site.
Vive nous à bas eux.
Cool. Donc voici donc on... voilà.
Allez Michel, pardon, vas-y.
C'est une chanson d'hommage au punk. Okay. Une chanson d'hommage au punk à Jeannot le pourri.
Ah.
Vous connaissez le pourri? En anglais, ils disent Johnny Rotin. On l'appelait Jeannot le pourri, il fait des pieds et traînait aussi. Il mangeait des rats aux orties, il faisait peur surtout la nuit. Il vivait dans un gourbet, faisait des combats de 600 lits. Et broyait jusque dans son lit, ce refrain, par sa repris. Boris Bernabal et vedette vive les hiboux. Chouette, Boris Bernabal et vedette vive les hiboux. Chouette. Il dansait le pauvre dans son vomi pour soigner ses pires abougris. Il rôdait autour des écuries pour traumatiser les bébés, oui.
ils gerbaient des chauves-souris, vos sens de tripe dans le zizi, et ils buvaient des sucres dans son lit. Ce refrain, parfois repris, dehors les stars virons les bonnets, vive les hiboux, chouette, chouette, dehors les stars. Vivons les vedettes, vivons les vivous, chouette, 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 chouette. Il n'avait pas de petite amie, car un jour il avait estourbi. Mais solitaire et gentil, 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 il mangeait sa chair bien saisie. Il haïssait ses amis, et il élevait des aspis pour piquer les grandes jeunes filles en hurlant sur sa fille. Dans les salles, il venait de vivre les hiboux. Les châteaux des nanas, quand elles avaient leur agnagna, ils se tapaient même des soldats pour leur refiler, je ne vous dis pas quoi. Ils mangeaient même son caca pour pouvoir embrasser son papa et se couper les poils des bras en gueulant ce refrain-là. À bas les stars, dehors les vedettes, vive les hiboux. Chouette, chouette, dehors les stars. Avant les volets, vive les hiboux, chouette, 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 chouette.